Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce mardi matin est Axel Fachus, il est animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère et il est précisément venu du Finistère pour être en direct avec nous au micro de la matinale. Je vous en remercie, bonjour.
Bonjour Stéphane, merci de me recevoir.
Alors on va parler de politique. Il y a beaucoup de choses à dire sur la politique ces derniers jours, j'allais presque même dire ces dernières heures. J'ai envie de vous entendre sur quelque chose qui va être épineux, en tout cas dans les temps à venir, c'est les relations entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Il y a eu cette histoire du 1er mai, cette exfiltration de Jérôme Guedj d'un défilé, ce saccage d'un stand du Parti Socialiste. Ça y est, la rupture est consommée avec LFI ou il y a encore un fil de dialogue?
Tout d'abord, j'aimerais rappeler que ce qu'il s'est passé avec Jérôme Guedj la semaine dernière et quelques jours juste avant, hein, car c'est arrivé deux fois, sont des propos tenus, des gestes, des situations qui sont ignobles. Ignobles car il est renvoyé à sa religion en permanence en ce moment.
On l'a traité de sale sioniste, hein, je reprends les termes. On aurait pu l'interpréter par sale juif, hein, permettez-moi de le dire un peu durement et crûment.
C'est une forme d'antisémitisme qui doit être condamnée par tout le monde. Tout le monde devrait réagir de façon ferme parce que c'est des choses qui sont inacceptables. On sait ce qu'il y a eu dans l'histoire à cause de ces choses. Et entendre des propos comme ça en 2025, c'est très inquiétant, je le crois. Et donc, évidemment, condamner ce qu'il s'est passé. Il n'est pas le seul au Parti Socialiste à recevoir ce genre de propos. Emma Rafovitch, notre présidente des Jeunes Socialistes, reçoit souvent des tweets, des réactions de ce genre, du style de Charles Maurras face à Léon Blum. Enfin, c'est des propos qui rappellent l'histoire et c'est une honte absolue. Donc je tiens évidemment à le rappeler. Évidemment, dans ce contexte, on voit des réactions. On voit certains évidemment qui le condamnent et qui viennent s'exprimer sur ce qui s'est passé avec Jérôme Guedj, Emma Rafovitch, le stand du Parti Socialiste, des jets de pétards quand même sur notre stand. Je crois que c'est pas des choses acceptables aujourd'hui dans la vie politique. On peut faire de la politique, on peut débattre sur certains propos, etc. Mais de là à aller motiver un antisémitisme aujourd'hui qui, on le voit, est présent dans toutes les couches de la société, est évidemment plus qu'inquiétant et appelle à la réaction de tous, je le crois.
Alors, jadis, l'antisémitisme était plutôt situé à l'extrême droite, voire même au Front National. On l'a vu avec certains propos de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a eu un glissement et que cet antisémitisme, on le retrouve finalement à la gauche de la gauche, et pour ne pas le dire, chez LFI. Pour vous, c'est quelque chose d'inquiétant, alors qu'il y a eu des alliances entre LFI, et il y a toujours une alliance entre LFI et le Parti Socialiste au sein du nouveau Front Populaire.
Ben, en fait, ce que je constate, moi, aujourd'hui, c'est qu'il y a un antisémitisme qui touche toutes les couches de la société, à chaque échelle de la société. C'est-à-dire qu'on n'est pas à quelques endroits, c'est partout. Partout, il y a cette idée des idées antisémites, il y a des idées racistes qui perdurent dans la société. Et évidemment, nous devons lutter contre toutes les formes de discrimination et encore plus la haine raciale et l'antisémitisme. Et je crois que nous devons faire tous bloc face à ça. Et c'est même pas une idée de gauche ou de droite, mais c'est une idée de république. C'est-à-dire que c'est respecter la République, être républicain, c'est évidemment respecter les droits de l'homme.
Justement, on a vu certaines manifestations cet an dernier contre la haine raciale, précisément, contre le racisme. Et souvent, l'antisémitisme, bien, il n'y en était pas question. On ne parlait pas de ce qui se passe dans la société. Et là encore, ça se situe sur le terrain de la gauche. C'est regrettable.
C'est regrettable. Sûrement, mais en tout cas, enfin, moi aujourd'hui, je parle pour le Parti Socialiste et je vous le dis, nous n'avons aucun problème sur ces sujets. Et si nous, il faut condamner à chaque fois, nous le condamnerons à chaque fois et nous prendrons la parole sur tous ces sujets, car nous ne laisserons pas dans la société perdurer ce genre d'idées qui rappellent les heures sombres de notre histoire.
D'un point de vue politique, on a reproché à Olivier Faure de ne pas avoir en quelque sorte réagi rapidement et en tout cas de manière ferme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à propos de ça?
Bah écoutez, moi je lis ses réactions et je vois qu'il a réagi face à l'antisémitisme, car évidemment je crois en les convictions de Olivier Faure et de tous les socialistes face à ces discriminations et sujets qui sont extrêmement dangereux et surtout qui touchent des personnes et qui les renvoient à leur religion, ce qui n'est évidemment pas acceptable aujourd'hui dans notre société.
On a des élections qui vont arriver, on va en dire un mot tout à l'heure, même plus d'un mot, les élections de 2026, élections municipales, puis il y aura l'élection présidentielle et même les élections régionales après. Voilà, alors on va peut-être pas faire toute la liste ce matin, mais pour ceux qui nous préoccupent, on voit une France fracturée aujourd'hui, y compris dans les territoires ruraux. Il y a beaucoup de préoccupations sociales, préoccupations sécuritaires. Il y a une inquiétude face à la montée de la violence. Là aussi, on va en dire un mot tout à l'heure. Comment arriver à évoluer pour le Parti Socialiste dans cette France fracturée et puis d'aller convaincre aujourd'hui?
D'abord, rappeler que le Parti Socialiste, évidemment, dans les territoires et à l'échelle locale, est un parti qui tient la route. Hein. Nous avons de nombreuses mairies, évidemment, en France, des plus grandes aux plus petites, qui sont tenues par des maires socialistes. Et je crois que l'échelle municipale est évidemment la meilleure aujourd'hui pour réconcilier les Françaises et les Français. Et parce que, c'est-à-dire que chaque maire, chaque adjoint, chaque conseiller municipaux sont au plus près des citoyens. Et c'est eux qui apportent les réponses les plus concrètes à nos concitoyens. Et je crois que les élections municipales, départementales, régionales qui vont arriver seront le bon moment aussi pour réaffirmer ce que nous avons fait dans nos différentes communes du territoire et ce que nous proposons évidemment pour l'avenir. Dans cette réconciliation évidemment qu'il faut apporter aux Françaises et aux Français, parce qu'il y a des territoires ruraux desservis par aucun service public et qui sont abandonnés. Et on comprend ces cris de colère et ces par ces élections municipales, parce que les socialistes croient en l'investissement dans les services publics et le renforcement de ces derniers, que nous arriverons à réconcilier les concitoyens, les Françaises et les Français, et permettre évidemment que tout le monde puisse vivre de façon digne dans sa vie personnelle.
Avec cette fracture, j'allais dire, un petit peu sous-jacente, fracture sociale, hein, on le disait, il y a aussi une fracture de la jeunesse. Hein, je disais en commençant, hein, vous représentez la jeunesse au Parti Socialiste. La jeunesse attend beaucoup et les victimes aussi sur les territoires. On voit la violence, par exemple, à Rennes. Souvent, ce sont des jeunes qui tombent dans le trafic de stupéfiants. Pour gagner un peu d'argent, voilà, bon, c'est pas la meilleure idée, on l'aura bien compris. Mais là aussi, il va falloir parler à la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse des territoires, y compris ruraux.
Mais totalement, les jeunes sont parfois abandonnés ou ne peuvent pas vivre dignement. On le voit ces derniers temps, il y a des étudiants qui subissent le mal logement, qui subissent la pauvreté, qui n'ont pas les moyens de faire des études parce qu'on ne leur apporte aucune solution. Et ça, c'est évidemment des choses qu'on doit prendre en compte et analyser pour permettre d'apporter des solutions concrètes. À avoir un logement digne, quand même, je ne crois pas que c'est une solution qui devrait faire débat, mais pourtant elle le fait. Et certains votent contre certaines mesures que nous proposons dans ce sens. Et notamment à l'échelle municipale, prendre en compte la jeunesse de ces territoires et se battre pour avoir le plus de moyens, évidemment, pour leur permettre de vivre dignement et de s'épanouir, en tout cas en tant que jeune, car c'est une chance d'être jeune, c'est l'avenir qui est devant nous. Et parfois, ben, quand on n'a pas forcément les moyens d'être, en tout cas, en pleine forme, en permettre d'être bien logé, de faire les études que l'on souhaite, qu'on soit heureux dans notre vie, et ben c'est aussi ça les réponses politiques. C'est pas que des choses qui sont éloignées des gens, c'est faire de la politique au plus près des citoyens.
Alors comment faire de la politique au plus près des citoyens lorsqu'on est dans la contrainte budgétaire? Parce que voilà, ça nous ramène un peu à la grande politique, mais on l'entend aussi sur le terrain, hein, les collectivités locales, territoriales, les maires, le premier échelon, hein, voilà, s'inquiètent de la baisse des budgets qui affecte le social, la sécurité, le logement ou les aménagements. On a l'impression d'une forme d'effondrement aujourd'hui au niveau budgétaire. Comment faire en sorte, là aussi, de rectifier le cap tout en continuant à faire des économies? Je vous l'avoue, je vous l'accorde, l'équation n'est pas facile.
Ben, évidemment, l'équation n'est pas facile. On a une dette qui est quand même très forte au-dessus de la tête et on souhaite quand même investir, en tout cas à certains endroits. Moi, ce que je constate, c'est que ben, les choix qui sont faits aujourd'hui au gouvernement ne sont pas les mêmes que si la gauche gouvernait. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, de nombreux endroits où il y a de l'argent, où il est possible d'en trouver et de permettre derrière des investissements pour la France, pour les collectivités territoriales, pour le social, pour avoir une société qui soit plus solidaire et de l'investissement notamment dans la culture, dans la jeunesse. Et aujourd'hui, enfin, il y a de nombreux économistes, il y a 300 économistes qui avaient soutenu et qui avaient dit que le programme du Non-Front Populaire était tenable. Et ces économistes, notamment comme Thomas Piketty, ont de très bons rapports là-dessus et qui parlent de l'austérité et notamment des niches fiscales où ben, finalement, il y a près de 200 milliards d'argent qui pourraient être retrouvés par les niches fiscales. Mais il n'y a aucune action aujourd'hui qui est mise en place par le gouvernement qui ne veut pas agir sur ces sujets-là. Et ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Et un constat qu'on peut regretter parce que, c'est-à-dire, on parle d'austérité à chaque fois, tout le temps de l'austérité, il faut être plus ferme, plus dur, avec des coupes budgétaires sur les plus jeunes dans l'enseignement supérieur. Par contre, quand il s'agit d'avoir des solutions assez concrètes qui permettent d'avoir cette répartition qui existe en France et qui est dans les déclarations des droits de l'homme où chacun contribue équitablement, eh ben, nous n'avons aucune réponse et aucune solution qui est apportée et tout cela est bafoué d'un revers de main à chaque fois.
D'un point de vue budgétaire, on a entendu le Premier ministre s'exprimer plusieurs fois. Le Premier ministre qui envisage de solliciter les Français par référendum pour leur demander en quelque sorte ben voilà, est-ce que le budget vous convient, est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts, etc. Moi, je me pose un peu la question, si demain les Français répondent non, on ne veut pas faire d'efforts. Alors comment on fait dans ce cas-là?
Ben, alors, évidemment, j'ai entendu parler d'un possible référendum sur le budget et donc sur les lois de finances. Alors déjà, ça pose la question évidemment de la constitutionnalité de ce référendum, car l'article 11 de la Constitution parle des réformes économiques et sociales, donc ne parle pas des lois de finances. Ça laisse interprétation sur ce point. Et évidemment, je crois pas que le budget de la France peut se voter par référendum, parce qu'en réalité, c'est des choix. C'est des choix qui se font point par point, ministère par ministère, sur quelles sont nos priorités. Et donc ça, c'est plutôt une négociation à avoir avec les partenaires sociaux, les partis politiques, les syndicats, sur quelles sont nos priorités, quels sont nos axes à favoriser et se dire... Demain, est-ce qu'on souhaite plus d'argent dans le social? Et dans ce cas-là, c'est un choix à faire dans le budget. Et je ne crois pas que la réponse soit simplement oui ou non à un budget.
On a perdu un petit peu le sens de la politique aujourd'hui, j'allais dire au plus haut niveau. On a perdu le sens de la politique. Finalement, quand on est dans la situation de blocage, on passe un peu le bébé, tenez au peuple français, ils vont décider, s'ils décident mal, bon ben voilà. C'est quelque chose qui, selon vous, est grave et est inquiétant.
Oui, car ça fait plus de 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Et par ailleurs, les Français ont manifesté plusieurs fois leur mécontentement face à ce gouvernement. Et finalement, c'est à son bien vouloir de vouloir redonner la parole aux Françaises et aux Français. Bizarrement, en 2025, on va écouter les Françaises et les Français. En 2023, quand il y avait la réforme des retraites avec des millions de personnes dans la rue, je ne crois pas qu'on écoutait les Françaises et les Français. À ce point-là, on a été au 49-3 sur des lois retraites. Donc, je trouve que c'est assez populiste aujourd'hui de dire « je veux écouter les Françaises et les Français » quand après 7 ans, on a fait des fractures dans la société.
Alors justement, ces fractures, elles sont là aujourd'hui. On voit à chaque élection le Rassemblement national qui progresse. Et il y a eu un sondage. J'avais envie de vous entendre sur ce sondage. Alors, sondage à 2 ans de l'élection présidentielle. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Mais enfin, ce sondage qui a sondé un petit peu moins de 10 000 Français fait ressortir que si demain Jordan Bardella se présentait à l'élection présidentielle, quel que soit le cas de figure, il en sortirait vainqueur, y compris au second tour. C'est quelque chose d'inquiétant pour la suite, pour vous ? C'est quelque chose de surprenant ? Ou au contraire, ça dépeint bien l'opinion des Français, c'est-à-dire une forme de lassitude, l'envie de tourner la page, d'essayer autre chose ?
Surprenant, pour ma part, non, car ils ont quand même réalisé 32% aux élections européennes. Donc, c'était un choc ce soir-là. C'était pas le premier. Il y en a eu depuis 2002 de nombreux, avec Marine Le Pen deux fois au second tour de l'élection présidentielle. Maintenant, je crois que ce sondage, on peut en tirer deux constats. C'est-à-dire qu'il y a cette extrême droite avec un bloc très fort, très haut, car peu importe le candidat, finalement, ils peuvent remporter l'élection, ce qui est quand même assez rare dans les partis politiques, surtout dans l'élection présidentielle, qui est une élection qui prend en compte la personne. Et donc, cela est vraiment marquant dans ce sondage. Et le deuxième constat, je crois que c'est pour la gauche, ne pas être dans l'immobilisme et se mobiliser très fortement dans les semaines et les mois à venir pour gagner, pour se réunir, pour réussir à faire croire aux Français et à proposer en tout cas ce projet alternatif qui permettra de réunir, de réussir à rassembler en tout cas cette France fracturée. Et quand on voit ces résultats qui mènent la gauche, et même pas au second tour en fait de l'élection présidentielle, on doit évidemment se mobiliser très fortement, évidemment que même les jeunes soient engagés sur ces sujets, puissent prendre toute leur part dans ce grand mouvement, car c'est essentiel pour l'avenir de la France et de la République. On peut pas rester dans une France avec un second tour qui serait Retailleau, Bardella. C'est extrêmement grave. Les propos tenus ces dernières semaines le montrent. Et donc, je crois que la gauche doit évidemment aller tout droit vers l'avant et se mobiliser pour réussir à gagner cette élection.
Avec Jean-Luc Mélenchon qui est rejeté, hein, on le voit en tout cas dans ce sondage. Là encore, je suis prudent, hein, il s'agit bien d'un sondage à 2 ans de l'élection présidentielle. Il peut se passer beaucoup de choses, évidemment, d'ici là. Il y a un rejet de Jean-Luc Mélenchon. Alors comment exister là aussi pour le Parti Socialiste s'il y avait une scission, ça nous ramène un petit peu au début de notre conversation, une scission entre le Parti Socialiste et les filles.
Eh bien, écoutez, d'abord, les propos de Jean-Luc Mélenchon ces dernières semaines, qui admet qu'il est clivant dans ses propos, quand on observe la France fracturée, je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Ce n'est pas en étant clivant, parce que il y a une extrême droite en face qui, elle, se veut diviser les Françaises et les Français par religion, par race, qui tient des propos abjects, ignobles envers les droits de l'homme. Et donc, je ne crois pas que la position en face, c'est d'être aussi clivant. Je crois qu'évidemment, il faut rassembler le plus possible et proposer ce projet alternatif qui permet de réunir les Françaises et les Français, de rassembler tout le monde autour d'un projet qui se veut social, solidaire, écologique. Et donc, je crois que ces prochaines semaines, il faudra rassembler parce que c'est essentiel. Et
là encore, c'est le terrain, c'est aller labourer le terrain, rencontrer les gens. On dit que le Parti Socialiste, la gauche peut-être plus en général, s'est coupé de l'électorat populaire, hein, je mets populaire dans sa plus belle acception. Est-ce qu'il faut le reconquérir, cet électorat que vous avez perdu, voilà, dont vous êtes détourné une époque?
Sûrement qu'il y a des erreurs dans le passé qui ont fait que nous avons perdu une base qui votait pour nous, car nous apportions des propositions très concrètes. Et c'est bien pour ça que la gauche a gouverné par deux fois, en tout cas à la présidence de la République et d'autres, notamment avec Jospin à Matignon. Mais je crois évidemment que si nous continuons notre refondation, notre reconstruction du Parti Socialiste, cette gauche de gouvernement qui aspire à apporter des positions qui soient radicales, fortes pour les plus précaires, mais en même temps qui a ce sens des responsabilités dans l'envie de rassembler la France fracturée. Je crois que évidemment nous réussirons à ce pari parce que il est essentiel et donc évidemment nous réussirons à parler en tout cas à ces personnes-là. C'est pas parler de façon électoraliste en voulant simplement avoir le vote de certains ouvriers dans certaines villes. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est de leur permettre de vivre dignement et d'apporter des solutions.
Donc, reparler aux Français, j'allais dire recoudre aussi peut-être la cohésion politique, parce qu'on voit là aussi que c'est très fracturé. Puis, il y a les grands problèmes sociétaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de laïcité, on l'a entendu ces jours derniers. Là encore, ça nous ramène au début de notre conversation. La laïcité, c'est important aujourd'hui dans la société. On a entendu le discours d'Emmanuel Macron hier soir devant la grande loge maçonnique, hein, puisqu'il s'y exprimait. Avec beaucoup d'ambiguïté sur cette notion de laïcité. C'est important aujourd'hui de mettre la religion à sa place et de mettre la politique à sa place également et finalement on ne mélange pas l'un et l'autre.
Totalement, c'est un principe fondamental de notre République, la laïcité. Ce n'est pas interdire toutes les religions dans l'espace public, ce n'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est permettre à tous d'avoir cette liberté de croire, cette liberté de penser, certes, liberté en tout cas de pouvoir pratiquer de façon digne sa religion sans être inquiété pour cela. Et en ce moment, quand nous voyons certaines personnes renvoyées à leur religion parce qu'ils ont des positions politiques, eh ben, c'est inquiétant. Mmh. Et nous devons réaffirmer cette laïcité qui est essentielle, car l'État doit s'occuper de son domaine et la religion d'un autre domaine. Mais jamais n'être inquiété parce qu'une personne a une religion ou a telle liberté de penser.
Les faits divers sont têtus et nous ramènent parfois à une dure réalité. On a vu l'assassinat de ce jeune Malien qui priait dans une mosquée dans le Gard. Beaucoup de propos ont été tenus, beaucoup de choses ont été dites autour de cet assassinat. On a parlé de récupération politique. Là aussi, il y a un terrain dangereux, là aussi, il faut déminer.
Totalement, vous l'avez bien vu, les propos d'Éric Zemmour à ce sujet. On renvoie cette personne qui a été tuée, je le rappelle. C'est-à-dire qu'il y a une famille endeuillée derrière. Il était tué parce qu'il était musulman. Il est tué parce qu'il est renvoyé, encore une fois, à sa religion. Ce qui est ignoble, inacceptable en 2025. Et Éric Zemmour, sa première prise de parole sur ce sujet, renvoie cette personne en disant qu'il l'aurait expulsé et donc aucun problème pour cette personne. Mais vous vous rendez compte des propos ignobles tenus par cette personne ? Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on arrivera à rassembler les Françaises et les Français. Et les gens doivent écouter, doivent entendre ce qui est dit par ces personnes qui promettent mondes et merveilles à la France. Car ils ont plusieurs fois, presque tout le temps j'ai envie de dire, parce que nous sommes dans ce débat politique, donc nous voyons ce qui se dit. Certains parfois pensent que... Ils disent des choses qui sont très républicaines et que le Rassemblement National, Éric Zemmour sont devenus des gens qui respectent la République. Non, vous voyez bien sur cette affaire, Aboubacar Cissé a été tué parce qu'il était musulman et on le renvoie en disant s'il avait été expulsé, aucun problème. C'est une honte et donc les Français et les Français doivent se saisir de ces propos et se rendre compte de ce que disent ces partis.
Alors, il y a une inquiétude aujourd'hui, une inquiétude, j'allais presque dire historique. On sait que la France est de tradition chrétienne. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, ce serait fastidieux. Puis, je pense qu'il faudrait mettre quelques historiens autour de la table. Voilà, les traditions chrétiennes. Et il y a des changements aujourd'hui. On voit le monde musulman qui arrive en France, qui prend sa place finalement, mais qui inquiète aussi parce qu'il y a aussi un volet politique. On parle beaucoup des frères musulmans qui, eux, ont véritablement un projet politique. Est-ce que là aussi, il faut remettre la religion à sa place, c'est-à-dire elle n'entre pas dans le champ politique ?
Elle n'entre pas dans le champ politique, mais évidemment, il appartient aux politiques qui dirigent ce pays de protéger les personnes croyantes et pratiquantes. D'abord, le climat aujourd'hui qui passe son temps à essayer de renvoyer la haine de l'autre.
Mmh. Et, il y a une peur de l'autre aussi, on le ressent dans la société.
Et totalement. Et donc, on va associer des religions à certains mouvements qui, eux, n'ont rien à voir avec cette religion. Car eux, ils font de la politique, ils font des actes qui sont ignobles. Mais ce ne sont pas les croyants de votre commune. Et donc, on ne peut pas créer cette peur entre les différentes personnes croyantes et en renvoyant des religions à certains mouvements politiques. Ou alors à des mouvements qui sont plus qu'ignobles. Les croyants, les personnes pratiquantes ont toute leur place dans la société française. On ne doit pas renvoyer une personne qui a une religion à d'autres choses, et en tout cas créer ce climat de haine qui évidemment est plus que regrettable et honteux.
Alors, climat de haine qui est aussi entretenu un peu par la politique internationale, on l'a vu avec ce qui se passe à Gaza, en Israël, aujourd'hui, ce qui se passe aussi en Ukraine. Alors, voilà, c'est pas la même chose, là on n'est pas sur le même type de conflit, mais voilà, c'est un conflit aussi. Et puis, il y a eu la Syrie, et aujourd'hui, précisément, Emmanuel Macron reçoit le dirigeant syrien à Paris. Il s'était félicité de son accession au pouvoir, il a été un des premiers présidents, Emmanuel Macron, à s'en féliciter. Est-ce que c'est une bonne chose de recevoir ce dirigeant à Paris aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut, allez, vous me permettez le terme, vous pouvez me démentir, est-ce qu'il faut normaliser finalement les relations avec la Syrie malgré tout ce qui a pu se passer ?
Mais d'abord, ce que je remarque, c'est qu'il y a Emmanuel Macron qui se veut en grand chef d'État diplomatique, qui gère toutes les affaires du monde et qui gère la paix. C'est lui qui permettra la paix dans le monde et dans l'ordre international. Ce que je constate, c'est que la France a perdu énormément de son influence dans ses territoires, dans ses relations diplomatiques avec les autres.
Il y avait un effondrement diplomatique, on l'a vu depuis quelques années.
Totalement. À Gaza, en Ukraine, la voix de la France pèse pas forcément grand-chose aujourd'hui, et même au niveau européen, on a du mal. On a du mal à s'exprimer et à parler. Nous, ce que nous prenons, c'est évidemment la paix partout. La paix en Ukraine, la paix à Gaza, en Syrie, dans l'Afrique, là où des guerres s'y trouvent. Et donc, évidemment, ce climat de paix doit se réinstaller, et le droit international doit primer sur toutes ces relations et ne pas instrumentaliser, comme le fait parfois Emmanuel Macron, les relations internationales pour avoir cette prestance au niveau des instances internationales. Je crois que c'est regrettable. Le but, c'est de favoriser la paix partout et peu importe la place.
Donc il faut discuter avec Ahmed Al-Shaara, l'ancien djihadiste finalement.
Non, mais c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est d'abord au niveau européen, en tant qu'Européen, on réfléchit avec tous les États comment on fait pour que les pouvoirs dans certains États qui mènent la répression, qui mènent, comme le font les talibans en Afghanistan, comme le font certains en Syrie, en Russie avec Vladimir Poutine, comment on fait au niveau européen pour agir ensemble et ne rien lâcher sur ces sujets, car c'est pas discuter avec eux, c'est certainement un rapport de force qu'il faut avoir pour imposer la paix, car on peut pas laisser certains dirigeants d'État mener leurs lois parce que ils ont décidé que eux ils mèneraient la guerre dans certains territoires.
Alors, il nous reste une petite minute, ça va être très court, mais j'avais envie de vous entendre sur Donald Trump, ça devient un peu ma marotte. Donald Trump, voilà, avec toutes ces exactions verbales, mais aussi une empreinte bien à lui, justement, sur la politique internationale. On l'a vu, là encore, face à Emmanuel Macron au Vatican, dans des circonstances un peu particulières, puisqu'il s'agissait de l'enterrement du pape François. Est-ce que... aujourd'hui, on doit avoir une crainte des États-Unis. Est-ce que il y a une forme d'hégémonie qui se met en place ?
Ah ben totalement. Donald Trump veut imposer un rapport de force à l'Europe, à la Chine. Il veut diviser tout le monde et remporter la mise. Il joue avec l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine se fait agresser, se fait conquérir certains territoires comme la Crimée il y a quelques années. Et nous avons Donald Trump qui arrive sur la scène internationale et qui décide que la Crimée sera russe à la fin de la guerre. C'est quand même absurde de voir un pays qui décide à la place des peuples.
Voilà, on en reparlera, vous reviendrez à Axel Fachus, mais là, le temps tourne, il y avait beaucoup de sujets ce matin dont j'avais envie de vous entendre, en tout cas vous entendre sur ces sujets. Axel Fachus, animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère, était avec nous. Merci beaucoup d'avoir été au micro de la matinale, très belle journée.
Merci Stéphane, à bientôt.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.